après avoir lu le livre, pour moi, je la situais entre 7 et 8. Enfin, c'est la première impression. Mais une petite fille qui, quand même, est pas très bien dans sa peau. Elle se pose vraiment des questions qui sont tout à fait des questions d'adultes. Quelle est l'histoire de ce livre? Parce qu'on dit, bon, c'est vrai que c'est votre premier roman. Ça fait très longtemps que vous avez envie d'écrire?
Ça fait très longtemps que j'écris. Mais j'avais écrit jusqu'à présent. D'abord, j'avais écrit des travaux d'ethnographie populaire. Je me suis intéressée, je suis historienne d'art de formation et je me suis intéressée au folklore ici en Belgique. Et donc, j'ai écrit des travaux de ordre-là, c'est-à-dire des travaux qui sont de l'ordre de l'information, tandis que là, c'est une fiction, c'est donc un travail beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, et ça, c'est la première fois que je me suis autorisée à le faire. Ce travail-ci m'a demandé quand même des années de préparation, c'est un cheminement vers autre chose. Vous me dites que la petite fille n'est pas très, pour répondre à cette question-là, n'est pas très bien dans sa peau, effectivement, c'est une, j'essaie de rendre cela, c'est une petite fille qui n'a sur elle-même d'autres regards que celui que les autres portent. Elle ne parle d'ailleurs dans le livre à aucun moment d'elle-même à la première personne. Elle ne donne ses émotions que par des métaphores. Elle parle d'elle à travers la façon dont elle parle de la poussière qu'on fouette tout le temps et qui ne peut jamais se poser nulle part, ou du travertin, du hall d'entrée sur lequel tout le monde marche, ou des coquillages, ou des méduses, ou de tous ces êtres clos sur eux-mêmes. Elle ne parle pas de ses émotions, de son ressenti, en employant le « je ». C'est en fait toujours, elle se pose toujours dans le regard de ses parents et dans le désir surtout qu'elle aurait d'avoir sur elle un regard aimant.
Vous pensez que au niveau des émotions, il faut les exprimer ou on doit les garder pour soi, vous personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes ces émotions, il faut les dire ou les émotions, il faut se les garder?
Non, je suis persuadée qu'il faut les dire.
Pourquoi?
Parce que je crois qu'il est important, en tout cas, de se les dire à soi-même. Il faut en tout cas les savoir, il faut en tout cas pouvoir les nommer. Et l'écriture, d'ailleurs, me permet de rechercher dans l'ombre des choses que je n'avais pas encore moi-même pu formuler. Et je crois qu'il est très, très important, c'est libérateur. Et je crois que c'est la condition même de rencontrer la vie en soi et de pouvoir, de pouvoir vivre.
Comment en êtes-vous arrivée, Corinne Hoekstra, à écrire? Puisque vous disiez qu'au début, vous avez fait des travaux d'ethnographie.
Ah,
comment vous en êtes arrivée là? Vous avez eu envie toujours depuis?
Oui, depuis toujours. J'ai une formation littéraire, déjà depuis l'école, depuis le lycée. J'ai toujours écrit, mais à côté de ce dont je vous parlais, qui sont des travaux scientifiques d'ethnographie, j'ai toujours aimé l'écriture, mais je n'avais l'écriture personnelle ne me concernait que moi-même. Je m'écrivais à moi-même, je tenais un journal. Mais dans un journal, on analyse les choses, on se les explique. Or, l'écriture d'un roman et la démarche est une démarche très, très différente. Un roman ne doit pas expliquer, il doit montrer, uniquement montrer. Ce qui permet à ce moment-là au lecteur de trouver sa place aussi. Parce que si on explique trop, je crois qu'on va au-delà. On ne permet pas au lecteur d'entrer dans l'histoire. Je crois que c'est comme dans toute relation, comme dans les amitiés, dans les amours, il faut laisser un certain espace pour que l'autre puisse aussi avancer.
On a l'impression que cette petite fille, quelque part, elle manque d'amour, et pourtant, elle est dans un univers privilégié.
Ça dépend ce que vous appelez les privilèges. Elle est dans un univers bourgeois. Un univers bourgeois qui a des règles très très strictes, bien sûr. Elle est nourrie, logée, chauffée, blanchie. Mais sur le plan de l'amour, je crois que elle se trouve entourée d'un couple de parents qui est très angoissé et qui lui fait porter ses angoisses. Ce sont des gens qui ont besoin que l'univers soit limité, clos, que l'univers soit dans la réponse, ils ont très très peur du questionnement, ils ont très peur des maladies, ils ont très peur de tout ce qui pourrait être une faille, et donc ils n'ont pas beaucoup d'écoute, et donc pas beaucoup d'amour non plus, parce que bon, je crois que l'amour c'est quand même, entre autres, si on peut le définir, c'est permettre à l'autre d'être autre chose que soi-même, et il ne laisse pas cet espace-là à la petite fille. Alors je ne sais pas, oui, un univers privilégié sur le plan matériel, oui.
Les univers clos, justement, le manque d'espace, les univers un peu fermés, c'est quelque chose qui vous dérange apparemment, hein. Vous aimez bien les grandes étendues.
Absolument, oui.
Ça, c'est trop réducteur pour vous.
Oui, je n'aime pas du tout l'enfermement. Et d'ailleurs, je dénonce, c'est la dénonciation principale de ce livre, c'est cet enfermement à la fois physique, parce que la petite fille, je la représente comme enfermée dans la maison par son père et sa mère, mais surtout un enfermement mental, psychologique. Ils l'enferment dans leur relation, ils la font participer d'une relation triangulaire, de deux adultes et d'une enfant qui est constamment mise en situation d'être leur miroir et de leur renvoyer une belle image d'eux-mêmes. Elle est enfermée dans ce rôle-là. C'est dans ce rôle-là qu'elle réussit à être plus ou moins aimée ou vue par eux. Et là, elle peut remplir une fonction. Donc, elle est enfermée dans ce rôle-là du fait même de sa demande d'amour et de son attente. C'est là qu'elle peut être vue. Ça, c'est un enfermement que je dénonce dans ce livre. Effectivement, l'enfermement me dérange beaucoup. Oui.
Dans tous les sens du terme ?
Oui, oui.
Vous êtes prête à prendre, je veux dire, position pour même certaines formes d'enfermement ?
Mais je crois que mon livre le fait. Donc je suis prête à le faire, puisque je le fais, je crois, oui.
Quelle est la chose la plus importante quand on écrit, Corinne Hoops, selon vous ?
Sur quel plan ?
Pour l'écrivain, la chose la plus importante quand on écrit ? Transmettre un message ? Faire rêver celui qui va le lire ? Essayer d'écrire le mieux possible ? Avoir un texte qui vous convienne ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dans tout, tout cela, pour vous, est très important ?
C'est le moment où je suis à l'écoute de ce qui va advenir. Au moment où j'écris, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des écrivains qui savent d'avance, qui ont fait un plan de leur livre, qui savent où ils vont aller, qui ont déjà fait une division en chapitres. Moi, j'écris de cette façon-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais, et donc c'est cette écoute, c'est me mettre dans cette qualité d'écoute qui me permettra de capter des choses qui ne sont pas encore dites et d'avoir assez d'ouverture et assez d'attention à ça. Donc il faut être dans le silence. Pour moi, j'ai besoin d'être dans le silence et d'être vraiment sans autre. Je dois faire le vide de tout le reste pour pouvoir. Je ne peux pas faire ça tout le temps. Mais je pense que le moment de l'écriture le plus important, c'est ça, c'est être juste par rapport à ce qui affleure, à ce qui va se dire.
Ça aussi, c'est un mot qui semble important dans votre vie. Juste. Juste, équitable, ça fait encore partie des mots précieux.
Ici, ce n'était pas dans le sens équitable que je disais juste. C'était juste dans le sens de la justesse, de l'adéquation de la parole, du mot, à la sensation, à l'émotion que je vis.
Oui, j'ai bien saisi, mais je pense que la justice, c'est quelque chose aussi très important pour vous.
Oui, bien sûr, oui. Je crois que c'est important pour tout le monde.
Ça dépend. Est-ce qu'il y a des mots-clés aussi chez vous ?
Non, je ne crois pas. Je n'ai pas de mots-clés. J'aime bien que les clés ne soient pas encore prévisibles. Donc, précisément, les clés sont toujours nouvelles, sont toujours autres. Donc, comme je ne sais pas encore quelles portes elles auront à ouvrir, je n'ai pas de mots-clés préétablis.
Et c'est une sensation agréable de savoir qu'on a une clé, mais on ne sait pas quelle porte elle va ouvrir ?
Ah oui, oui. C'est une sensation très, très intense, très vivante de savoir ça, oui. Je crois que c'est très important pour moi.
Le moment le plus difficile quand on écrit un livre, c'est quand on le finit ?
Écoutez, je n'en ai fait qu'un, donc je ne peux pas vous parler de grande généralité. Le moment le plus difficile... Oh, tous les moments ont été très difficiles. J'ai travaillé beaucoup à ce livre. Au début, je faisais des phrases plus longues. J'ai travaillé beaucoup ma phrase, mon texte. Il semble comme ça avoir été écrit d'un seul jet et d'emblée. Et c'est le fruit d'un gros travail, puisque c'est la première fois que je l'ai fait. J'ai dû apprendre aussi à dire peu, à rester en deçà de l'explication plutôt que d'aller au-delà, à ne pas trop m'imposer, à ne pas trop expliquer. Et donc, ça, c'était un gros travail. Le moment de le finir... Oui, c'est un moment. Bien sûr, il faut à un moment donné accepter que ce ne soit plus un prolongement de soi-même, mais un objet extérieur à soi dont on prend congé. Et ça aussi, c'est un moment important. Voilà. Un moment difficile, c'est aussi le moment où on attend l'impression qu'il fera. Mais j'ai eu beaucoup de bonheur de ce moment-là, parce que j'ai constaté que les gens qui l'avaient lu souvent l'avaient aimé et me l'ont dit.
Vous êtes un petit peu, comme tous les écrivains, comme tous les artistes, un petit peu inquiet du regard des autres.
Oui, je le suis fort, oui.
Est-ce que vous êtes impressionnable, justement ? Est-ce que vous auriez été capable de, même si vous y croyez fortement, de changer quelque chose, justement, parce que on vous aurait dit que peut-être vous auriez dû ceci ou cela ? Est-ce que vous êtes influençable au point de changer le texte ou la façon d'écrire ou...
Non, je ne crois pas, mais j'écoute ce qu'on me dit. Et les gens qui l'ont lu m'ont donné leur impression. Chaque personne m'a donné une impression différente, ce qui m'a confortée dans la certitude qu'il fallait que je reste avec mon texte. Parce que j'aurais pu, si j'avais écouté les lecteurs que j'ai eus, faire autant de livres qu'il y a eu de lecteurs. Mais j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit et je crois que chacun m'a quand même donné beaucoup. Je crois qu'il est important d'écouter. Mais il est important de rester soi-même aussi.
Eh bien, nous allons en même temps écouter et puis en même temps vous découvrir, puisqu'on vous a demandé, comme tous les invités de Tête à Tête, de faire un choix musical. Le premier titre que vous avez choisi, c'est Claude Semal avec Mon stylo. Alors, pourquoi ?
J'aime beaucoup Claude Semal. J'aime beaucoup sa subversion, son esprit, son humour. Et j'aime beaucoup ses spectacles que je vais écouter assez fréquemment au théâtre Le Café qu'il tient à la rue Cartigny. Mon stylo, il a enregistré cela en 97 avec la fanfare Kramik, qui ça lui convient très très bien comme fond musical, je trouve, et avec Vincent Trouble à l'accordéon. Et le texte de cette chanson, comme vous l'entendrez, parle de l'écriture, bien sûr, et fait la comparaison entre l'écriture au stylo et l'écriture à l'ordinateur. Bien sûr, je travaille à l'ordinateur aussi, mais je crois que le premier jet, il est important qu'il ait ce côté encore très spontané. Voilà.
Câblé de la planète, scotché devant l'ordino, ont broché sur internet leur libido. Mais plus je vois l'IBM se taper des Macintosh, et plus en retour moi j'aime mon stylo. Dans le divan du living room, qu'ils ont baptisé bureau, ils se repassent sur CD-ROM des jeux idiots. Puis ils effacent par mégarde d'un geste un mois de boulot, et je rigole quand ils regardent mon stylo. Sous le plus humble prétexte, il vous laser illico sur un traitement de texte, 5 ou 6 mots, édité sur tablature, encore gras en format quarto. Il n'écrit pas sur facture mon stylo. Pour trouver le mot qui dure, il ne pousse pas sur le dico, il ne fait pas de littérature sur Nintendo. Il n'apprend pas l'écriture à la colle et au ciseau, il préfère ma signature, mon stylo. Mégabazar et toutes ces mémoires à gogo, ça ne vaut pas le jus noir d'un café et d'un égo. Faut pas 87 touches pour flinguer tous les salauds, il n'a jamais qu'une cartouche, mon stylo. Ses polices et ses icônes sont ceux des flics des bigots, qui leur ont mis ses fibros dans le ciboulot. Contre toutes les impostures, avec Voltaire, avec Charlot, il pense avec des ratures mon stylo. Quand ses gros culs sur la table pèsent moins de 6 kilos, il les appelle des portables, les salauds. Moi je perds jamais mon programme et j'emmerde les dactylos. Il pèse 41 grammes, mon stylo. Il peut me curer l'oreille et même gratter le dos, essayez de faire pareil à l'ordino. Gardez vos cybermachines, je préfère sur mon radeau naufrager en mer de Chine, mon stylo. Qui donc voudrait qu'on l'enterre avec un vieux Macintosh? Ça ne supporte pas la poussière, ces animaux. Quand je passerai l'arme à gauche, glissez donc incognito contre mon cœur dans ma poche, mon stylo.
Claude Semal, mon stylo, le premier choix de Corinne Hooks, notre invitée dans Tête à Tête aujourd'hui. Alors, je remarque deux choses. Je remarque que vous avez tout à l'heure dit que vous aimiez bien Claude Semal à cause de son côté de subversion. Et puis dans la chanson, vous avez tiqué à un moment donné quand il a dit on pense avec des ratures.
Oui.
Et ça vous ressemble ?
Oui, je crois. L'écriture est un travail, c'est un vrai artisanat, je crois. En tout cas, pour ce qui me concerne, certaines émotions, certaines images viennent, et puis il faut les mettre en place. C'est sûr que l'ordinateur, pour le couper-coller, est très utile, mais ça, c'est un travail de... Qui suit le travail au stylo? Ça, c'est la mise en place technique ensuite. Mais au début, c'est le stylo, ce sont les ratures, oui. Je crois qu'il est important de pouvoir aller en avant, venir en arrière, chercher.
Chercher aussi. Hein. Ah, oui. On a l'impression que vous êtes toujours en quête de quelque chose.
En fait, l'écriture est ça, oui. C'est ça. C'est une recherche, c'est une quête, c'est une interrogation sur soi-même.
Et puis que vous vous remettez aussi en question, ce qui est aussi intéressant.
Oui, bien sûr. Une interrogation sur soi-même est une question à soi-même permanente, en fait. Oui.
Et le côté subversif, alors, est-ce que quelque part, Corinne Houx aurait un côté subversif qui s'ignore ?
Ah, je crois que dans ce livre, il y a beaucoup de subversion. Dans le regard de la petite fille, qui est un regard innocent, candide, mais qui me permet, par ce biais-là, de dénoncer beaucoup de choses sur le plan de l'éducation, sur le rapport de ses parents aux voisins, sur la manière dont les voisins vivent leur religion catholique. Ce regard qui interroge tout le temps permet de dénoncer, oui.
Corinne Houx, quand vous avez écrit le grand menu, qu'est-ce que vous pensiez au juste ? Vous aviez envie de faire un premier roman qui sorte un petit peu de l'ordinaire ? Vous aviez envie de vous lancer dans une carrière d'écrivain ? Vous aviez envie que le roman, même s'il n'est pas autobiographique, vous serve peut-être à évacuer quelque chose qu'il y avait en vous ? Il y avait une motivation particulière ?
Le plaisir de chercher. Le plaisir de chercher à dire de manière le plus juste, je reviens sur ce mot, le plus exact, un ressenti. C'est surtout ça, cette rencontre entre le non-dit et le dire. C'est trouver une forme, un ton. Le plaisir de travailler dans ce ton-là. Parce que je crois que la première importance d'un livre, c'est son ton. C'est là que se révèle la personne qui l'écrit, je crois. Le ton est une façon, une façon de regard, en fait. Et donc, voilà.
Qu'est-ce que vous aimez au point de vue de la lecture ? On a vu, vous avez choisi, en ce qui concerne la musique, Claude Semal, et on reviendra à vos choix musicaux dans quelques instants. Mais quand vous êtes chez vous, quand vous êtes tranquille et que vous aimez lire, vos goûts vont plutôt vers quoi ?
Ah, il y a eu toute une époque où ça a été Colette, autrefois. Puis il y a eu toujours Senard, et puis Duras. J'aime beaucoup Sarraute aussi. Voilà, ça c'est pour les grands classiques. Et puis j'aime beaucoup lire les écrivains belges, Pierre Mertens, Caroline Lamarche, Michel Lambert.
Vous voilà. Êtes plutôt lecture ou plutôt image ?
Ah, plutôt image, oui. Oui, je crois qu'il y a dans une image une force de frappe, beaucoup plus immédiate, bien sûr, que dans toute théorie, toute notion. Précisément, dans ce livre, j'ai essayé d'éviter, et d'ailleurs, bon, ça allait de soi, du fait même du regard que je prenais, d'éviter tout concept, toute pensée abstraite, toute représentation, oui, toute représentation abstraite. Je crois qu'il est important de montrer, non pas d'expliquer, encore une fois. Oui, je n'ai pas voulu faire de théorie, pas voulu faire d'analyse. Je crois que les choses passent beaucoup mieux par le visuel, ou par l'odorat, ou par les sensations.
Et vous auriez aimé, ou vous aimeriez, écrire pour le cinéma ?
Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. Quand j'écris ce roman, pour moi, je suis dans mes images à moi, et je remarque que les lecteurs retrouvent leurs images à eux, du fait que je montre... c'est une sorte de... Déjà de... C'est très visuel, n'est-ce pas ? Je crois que... Je n'ai pas appris à écrire pour le cinéma, je ne sais pas si j'en suis capable.
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on apprenne ou qu'on n'apprenne pas ? Souvent, on a une certaine, des certaines affinités, on dirait « Ah, ça, j'aimerais bien... »
J'aime créer des images, non, je crois que le roman me comble. L'écriture romanesque me comble parce que J'y mets des images. J'aimerais éventuellement filmer, oui, ou photographier.
Mais vous pouvez aussi, Corinne, s'y mettre des images très dures. Je veux dire que le Grand Menu, c'est pas du tout un roman à l'eau de rose, l'histoire d'une petite fille.
Ah non, pas du tout.
Il y a un passage sur la naissance qui est un passage très, je peux même me permettre, très hard.
Oui, très violent.
Très violent.
Oui, la petite fille essaie de ce passage-là, c'est son rapport à sa mère, elle essaie d'imaginer la manière dont sa mère l'a voulu, l'a eu, l'accouchement, et elle dit à un moment d'ailleurs que naître, sortir est une chute brutale, comme par la portière d'un train, elle ne se sent pas bienvenue.
Non, elle dit d'ailleurs qu'elle voit dans les yeux de sa mère que sa mère ne la veut pas.
Non, elle dit effectivement, elle aimerait tant que sa mère la veuille. Et elle dit d'ailleurs que sa mère a dans les yeux quelque chose de très beau, un beau bleu d'aquarelle. Et quand ses yeux sont doux et regardent vers le lointain, la petite fille croit que sa mère la voudra, que ses yeux vont se tourner vers elle et qu'alors sa mère la voudra. Et elle imagine tout ce qui pourrait se passer si sa mère la prenait près d'elle et l'aimait. Et puis elle se rend compte, dès que ses yeux se tournent vers elle, qu'ils redeviennent durs, qu'ils redeviennent exigus, verrouillés, qu'ils l'enferment à nouveau. Et elle se rend compte que c'est peine perdue.
Quelles sont vos affinités en ce qui concerne la musique? Qu'est-ce que vous aimez écouter?
Ah, moi j'aime beaucoup la musique baroque, j'aime le grégorien, j'aime... voilà, je crois qu'on...
Et tout à l'heure, vous disiez que vous avez besoin d'écrire
en silence.
En silence. Oui. Donc, en fait, la musique, pour vous, accompagne des moments de relaxation ou simplement vous l'écoutez, vous dites maintenant, je vais écouter de la musique?
Oui, voilà, ça doit être... C'est une rencontre, c'est un choix ponctuel. Ça n'accompagne pas de la relaxation. La relaxation se fait en silence aussi, de même que l'écriture aussi. La musique a trop d'importance pour pouvoir... ça me touche beaucoup trop pour pouvoir être écoutée comme ça en...
Vous n'étiez pas le genre de petite fille à faire cette voix avec la radio?
Ah non, jamais, non. J'ai beaucoup... la musique, pour moi, est une émotion trop violente, trop importante pour lui donner une place secondaire.
Donc, pas de bruit de fond?
Ah non. Quand j'étais petite, je n'écoutais... Oui, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas de bruit de fond. Vous allez remarquer que mes choix se portent... sur la chanson française. Et c'est vrai que mon adolescence, personnellement, a été très, très marquée par cela. Il y avait... Je ne sortais pas beaucoup, mais j'avais des disques. J'écoutais Brassens, j'écoutais Barbara, j'écoutais Anne Sylvestre, Léo Ferré,
les
Brel.
Les textes, les mots, on revient toujours à la force des mots. Parce que les auteurs, les chanteurs que vous citez sont des personnes qui ont des textes très forts. Donc déjà, à ce moment-là, vous étiez en quête de cela?
J'étais en quête de cela parce que j'étais en quête de sens, comme tout jeune, tout adolescent. Et j'ai trouvé une compagnie dans la chanson française très très importante. Et c'est vrai que je connaissais tout ce répertoire à peu près par cœur parce que ça a été un écolage très important pour moi, ça. Parce que Brassens, ce sont de belles phrases. C'est un...
Coquine, souvent. Hein?
Coquine, oui, mais aussi très, très bien tournée, très bien pensée, tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça que mes parents m'ont poussé à étudier le latin, le grec, parce que je voulais, quand j'étais adolescente, ce que je voulais faire dans la vie, c'était écrire des chansons comme Brassens. C'était assez présomptueux.
Pourquoi pas?
En tout cas, c'était mon souhait déjà à l'époque d'écrire, en tout cas.
Mais des chansons, parce que c'était un peu
parce que c'était ce que je connaissais.
Oui.
On ne lisait pas beaucoup chez moi, et donc voilà, moi j'avais ça. Ces chansons étaient pour moi une référence très importante. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a fait faire le latin, le grec. Ma mère m'a dit, mais tu crois que Brassens, il n'a pas fait de latin et de grec pour faire ce qu'il fait? Donc voilà, voilà.
Et ça
mais je ne regrette pas, j'ai beaucoup aimé ces études.
Ça se passait bien, les études? Vous étiez quelqu'un de studieux? Vous avez l'air d'un studieux, vous disiez...
J'ai fait de mon mieux.
Oui, c'est dans le genre peu mieux fait.
Non, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux par rapport à...
Au
contexte dans lequel je me trouvais, oui.
L'univers scolaire, ça vous plaisait? Parce que vous disiez tout à l'heure, en fait, que vous n'aimez pas le côté un petit peu réducteur et les habitudes et tout cela. C'est vrai que l'univers scolaire, surtout quand on fait des études, on est obligé de se plier à une certaine discipline. Ça vous convenait, ça, Corinne Hux?
Oui, ça me convenait. J'ai eu de la chance d'avoir de très bons professeurs. J'ai eu de très bons professeurs en grec, en latin, en français.
C'est parce que vous étiez une bonne élève aussi, quand même.
Non, une élève moyenne, mais il y avait certains cours qui avaient beaucoup d'importance, comme par exemple ce que je viens de citer. Que j'étais très mauvaise en sciences et en maths.
Oui, j'allais dire, il y en a certainement que vous n'aimiez pas du tout.
Qui passaient pas bien, en tout cas, non. J'aimais bien les professeurs, mais la matière était difficile.
Ça vous faisait moins rêver, hein, c'était moins évocateur.
C'était pas mon univers, non.
C'était pas votre univers. Oui. Retour au choix musical de Corinne Hux. Vous avez choisi Irène de Neuville.
Oui, Irène de Neuville. Alors, Irène de Neuville est une bruxelloise. Une bruxelloise qui, pendant... qui chante depuis 30 ans. Elle fête d'ailleurs cette année-ci ses 30 ans de chansons. Et à cette occasion, elle sort un troisième CD. Donc elle en a deux précédemment déjà, de ses chansons, dont elle est auteur-compositeur. Préalablement, elle avait mis en musique des poétesses belges, des poètes et surtout des poétesses belges. Elle a fait 4 disques, dont un consacré entièrement à André Soudenkamp.
Et vous la connaissez personnellement ?
Et je la connais personnellement et j'aime beaucoup son travail. Et je trouve qu'il est important de le soutenir. Les disques de mise en musique de poétesses sont épuisés et je crois qu'il serait souhaitable de les rééditer parce que ce sont de très très beaux textes et de très très belles musiques qui leur conviennent très bien.
Alors on écoute votre choix, Irène de Neuville, et ça s'appelle Comme toi.
Comme toi, j'aime les gares, les trains et les bateaux, les marchés et les foires, les chiens et les chevaux, les chemins de halage, les écluses, les canaux, la mer, les coquillages, les moulins à pivot. Comme toi, j'aime le silence, le saule au bord de l'eau, les péniches qui dansent sur la Meuse et l'Escaut, la confiture d'orange, la cerise sur le gâteau, Rousseau et Michel-Ange, la plume et le pinceau. Et j'aime aussi la pluie qui doucement ruisselle sur mon pays petit, mon pays en dentelle, qui va de Gaume en Flandre, de Liège à Saint-Amand, de méandre en méandre, de l'été au printemps. Comme toi, j'aime la paille, le bois et les copeaux, et la pierre de taille, l'enclume et le marteau, l'ardoise et le galet, la brouette, le chariot, les arbres à qui l'on met la tête sur le bio. Comme toi, j'aime les nuages, les passages à niveau, la tome de fromage et la bière au tonneau, la lampe qui clignote, le fan et le chevreau, la lune qui chuchote, les chansons à Pierrot. Et j'aime aussi la pluie qui doucement ruisselle sur mon pays petit, mon pays en dentelle, qui va de Gaume en Flandre, de Liège à Saint-Amand, de méandre en méandre, de l'été au printemps, de l'été au printemps.
Irène de Neuville, votre deuxième choix musical.
Oui, elle a une très belle voix,
s'appelle Comme toi. Vous me disiez pendant que le disque tournait que, bon, c'est une amie à vous, vous aviez envie de la faire connaître, et puis que l'univers de Irène de Neuville est un univers aussi très belge.
Dans le cadre de cette chanson, en tout cas, aussi, comme vous dites, comme celui de mon livre, il est clair que cela se passe... à Bruxelles. Mon livre, il y a certains signes. Le père, à un moment donné, traverse pour aller à son travail le Pajottenland. Entre autres, il parle en partie flamand, c'est sa langue maternelle.
Il y a des expressions
bruxelloises. Il parle aux animaux et aux insectes qu'il affectionne tout spécialement, aux petites bestioles. Il retrouve à ce moment-là ce côté tendre de cette langue maternelle.